Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et dans un instant, nous découvrons en avant-première l'univers du nouveau roman de Guillaume Musso. L'auteur s'est confié à Bernard Lehu et nous vous offrirons un appartement à Paris. C'est son titre. Pas d'emballement, hein, c'est le titre du livre. Au 32-10. Jane Birkin revisite ses chansons et celles de Serge Gainsbourg, accompagnée par un orchestre symphonique. L'album vient de sortir et Jane nous le commentera au micro d'Anthony Martin. Au cinéma cette semaine, Juliette Binoche sera à l'affiche de deux films. Stéphane Boutsock l'a rencontrée. Nous découvrirons la bande dessinée RTL du mois de mars. La Terre des Fils de l'Italien JP. Un album en noir et blanc, coup de cœur de Monique Younes. Et puis côté télévision, la série Versailles est de retour sur Canal+. Ce sera le choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bernard Lehu, à trois jours de l'apparition de son nouveau roman, Un appartement à Paris, Guillaume Musso se confie en avant-première à Laissez-vous tenter.
Oui, après le triomphe de la fille de Brooklyn, qui paraîtra jeudi également, hein, en poche chez Pocket, Un appartement à Paris, c'est une réussite totale. Ce 15e livre est celui de la maturité chez Guillaume Musso, 42 ans, mais aussi celui de toutes les audaces, à commencer par le choix de son personnage principal, un mort, pourtant omniprésent tout au long du roman, un peintre de génie, Sean Lawrence, imaginé avec beaucoup d'habileté par Guillaume Musso, dont on découvre la passion pour l'art contemporain.
Plus que la peinture, c'est le processus de création. Ça m'a toujours passionné. Parfois même, le processus de création m'intéresse plus que le résultat final et comment les artistes arrivent à trouver une sorte d'énergie créatrice, et souvent c'est en détruisant. Ce que disait Jean-Luc Godard,
que l'art, vous citez dans le roman,
l'art est un incendie, il naît de ceux qui le brûlent. Alors à la fois ceux, c'est eux, et je fais mienne la phrase CEUX pour ce peintre dont la présence hante tout le récit. Finalement, lui trouvait son carburant en détruisant les gens qui étaient autour de lui, jusqu'à ce qu'il devienne père et que quelque chose s'apaise en lui.
Ah. Alors, un apaisement de courte durée, oui. Quand Julian, le petit garçon de ce peintre, est enlevé et assassiné, une mort à laquelle l'artiste refusera de croire jusqu'à son propre décès. Et c'est ce que découvrent Madeleine et Gaspard, qui, à la suite d'une méprise, sont contraints de partager la location de l'ancien appartement du peintre à Paris, d'où ce titre. D'abord, chien et chat, Madeleine et Gaspard enquêtent de père sur la disparition du petit Julian. Guillaume Musso donne à ce duo une profondeur psychologique, une complexité plus fouillée que dans ses livres précédents.
Moi, j'ai toujours été en accord avec cette phrase de Gabriel Garcia Marquez qui dit « Tout homme a trois vies, une vie publique, une vie privée et une vie secrète ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie secrète qu'on porte tous en nous et surtout les aspirations contraires qu'on peut avoir. Et là, on a deux personnages, effectivement. Gaspard, qui lui s'affiche comme un misanthrope absolu, il ne supporte pas les gens, il ne supporte pas le bruit. Il porte ce discours-là, alors que finalement, il n'est pas si misanthrope que ça dans les faits. À l'inverse, Madeleine, elle, a un discours plutôt positif sur l'humanité en général, alors qu'elle a un fond qui est très, 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 très noir. Et c'est cet attelage-là qui m'a intéressé, voilà, et qui porte mon roman.
Alors à ce stade, j'imagine, Bernard, que vous ne pouvez pas nous en dire beaucoup plus sur ce que vont découvrir Madeleine et Gaspard au cours de leur enquête.
Ben oui, je n'en dirai pas plus. On ne va pas gâcher le plaisir du lecteur. On peut toutefois souligner la présence centrale et une nouvelle fois chez Guillaume Musso du thème de l'enfant.
J'ai un fils de 3 ans et demi, je m'en occupe beaucoup. Et c'est quand même une source d'inspiration, à la fois pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, parce que bon, c'est une source d'amour, d'émerveillement. Et pour le pire, parce que voilà, vous avez cette idée que quand vous avez un enfant, vous êtes fragile, puisque vous êtes vulnérable, on peut vous atteindre très facilement à travers lui. Enfin, tous les parents connaissent ça. Et c'est pareil, on retrouve cette dualité, cet état de tension où la paternité provoque l'une des plus grandes joies qu'on puisse connaître et fait naître l'une des plus grandes peurs. Et c'est ce point de tension, oui, qui se prête bien au personnage, qui se prête bien au thriller. Donc voilà, j'ai pas eu à faire d'efforts pour creuser trop longtemps ce thème.
Et alors, la dernière audace, je dirais même la grande nouveauté d'un appartement à Paris, c'est l'apparition, pour la première fois sous la plume de Guillaume Musso, d'un tueur en série, mais alors absolument terrifiant.
Oui, je me demande d'ailleurs d'où c'est venu, parce que quand je discute avec mes amis qui écrivent des polars beaucoup plus hard que moi de ce point de vue-là, je leur dis toujours, moi j'irai jamais sur ce terrain parce que
vous y êtes là.
Pour le coup, moi qui fais des plans de mes romans qui sont assez charpentés dès le départ, là, ce personnage-là, j'avoue qu'il est venu, au cours de l'écriture, donc il s'est un petit peu imposé à moi, et ça c'est ce que j'aime bien. Je sais que ça fait très cliché, ce truc, des personnages qui s'émancipent un peu de leur créateur, mais moi, en tout cas, quand ça arrive, généralement, voilà, c'est plutôt bon signe. Et là, pour le coup, c'est l'un des plaisirs de l'écriture, quand vous le laissez surprendre par un personnage qui finalement prend une ampleur, voilà, auquel vous ne le destiniez pas.
Alors, si vous voulez trembler en découvrant le roi des aulnes, c'est le surnom donné par Guillaume Musso à son tueur psychopathe, précipitez-vous.
Citation, hein.
Voilà, c'est dès jeudi, et donc sur l'excellent Un appartement à Paris. Je signale que l'entretien complet de Guillaume Musso est à retrouver en vidéo sur RTL.fr.
Luxe, alors on vous fait gagner Un appartement à Paris. Précision qu'il s'agit bien du livre, publié chez Ixo, si vous répondez à la question que vous pose tout de suite Bernard.
Eh bien, l'un des personnages du roman était un artiste de génie. S'agissait-il d'un cinéaste ou d'un peintre ?
Votre réponse au 32-10, et on se retrouve dans quelques instants. Ah non, tout de suite, la météo. Vous avez vos...
Non, pas la météo.
La météo de la télé.
Excusez-moi, je me laisse troubler.
Isabelle Bonnet.
Non, mais attendez, elle a pas ses audiences. Vous avez vos audiences ?
J'ai celle de vendredi et samedi.
Ah !
Et je peux déjà vous dire qu'elles font du bien à TF1, puisque vendredi, Koh-Lanta devance nettement le polar de la 2 K1, 6 100 000 fidèles contre 3 600 000 pour la 2. Et il y a effet qui se coule samedi, puisque la 1 est de nouveau nettement en tête avec le match de foot. Oui, et le match de foot Luxembourg-France qui rassemble 6 200 000 fanales, là encore devant le polar de la 3. 2 800 000 adeptes. Il y a eu 2 200 000 personnes pour la spéciale site d'action qui rapporte tout de même 4 millions d'euros. Et hier, la logique.
On le saura dans quelques instants.
Le film de TF1 qui soit largement en tête.
Bon, on parle de notre soirée télévisée de ce soir. Et l'événement, c'est le démarrage de la saison 2 du feuilleton Versailles. Une coproduction franco-canadienne. Il n'y a plus que vous et moi à dire feuilleton, c'est ça qui est chérie.
Déjà vendu à.
Ils appellent ça une série, les gamins.
Oui, bon, c'est un vrai feuilleton. Déjà vendu à 135 pays, dont les États-Unis et la BBC. Record d'audience partout. L'équipe fabrique tout, hein. Costumes, chaussures, tout. L'accent est mis cette saison sur la vague d'empoisonnement à Versailles, la passion du roi pour la Montespan, l'arrivée en France de la très allemande princesse Palatine pour épouser le frère du roi, amoureux lui du chevalier de Lorraine, le tout sur fond de guerre avec la Hollande de Guillaume d'Orange qui a commandité l'enlèvement du dauphin, le coupable est arrêté, Louis XIV le nargue.
Guillaume d'Orange t'a payé pour enlever mon fils, empoisonner mon ministre.
Empoisonner quel ministre ?
Tu me prends vraiment pour un idiot.
Vous croyez que Guillaume est le seul à vous haïr ? Croyez-moi, sire, tout le monde vous hait.
Quand mes scribes rédigeront la chronique de mon règne, je veillerai à ce qu'il ne subsiste pas la moindre trace de toi. Tu seras pour l'histoire ce que tu es aujourd'hui pour moi. Rien.
Contrairement à vous, Majesté, je ne me soucie guère de ce que l'histoire retiendra de moi.
Voilà, le producteur Claude Chély et le réalisateur Thomas Vincent rappellent la genèse de ces 10 fois 52 minutes.
On était dans la Galerie des Glaces et on s'est dit rien n'a été fait vraiment depuis l'allée du roi sur Louis XIV. Et on s'est dit en même temps, il faut que ce soit une série internationale. Il faut avoir de l'argent, 28 millions d'euros pour faire Versailles. Il n'y a pas d'autre moyen que de le faire en anglais pour pouvoir le montrer à tout le monde. Versailles, c'est une marque. On n'a pas besoin d'expliquer ce qu'est Versailles. Après, on explique ce qu'il y a à l'intérieur de Versailles. Et nous, on est surpris tous les jours. Souvent, on n'a pas besoin d'inventer les choses. Hein. La princesse Palatine, c'est une princesse extraordinaire parce qu'elle est hyper jeune. Elle quitte les siens, elle ne parle à peine la langue, elle ne comprend rien à tous ces gens-là. Elle est mariée avec un mec qui est homo, bisexuel en fait, mais qui ne s'intéresse pas beaucoup à elle. C'est quelqu'un qui se comprend très rapidement qu'elle doit accepter la relation que son mari a avec le chevalier de Dorène. Elle propose un ménage à trois en quelque sorte. Toi, tu es son mari de jour, moi sa femme de nuit. Et il faut qu'on essaye de travailler ensemble. Quand on lit des choses comme ça, on se dit, bon, c'est de la fiction.
Quand on regarde vraiment le passé, ce dont on se rend compte, c'est qu'on n'est pas si moderne qu'on le croit.
Voilà.
Voilà, à propos de Louis XIV, on peut en rajouter un petit rayon, on en connaît un rayon sur les audiences. C'est Lucie qui est évidemment en tête sur TF1, Luc Besson, 7 810 000. C'est définitivement un bon week-end pour la Une.
Voilà, elle nous fait aimer les feuilletons en série. C'était Isabelle Marini-Bosque.
Marine.
Parce que j'aime Maureen. Bon, allez, à tout de suite. musique, Jane Birkin, etc.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Et un retour qui nous fait très plaisir à présent. Jane Birkin confiait la semaine dernière dans RTL Soir avoir gagné son combat contre la leucémie. Anthony Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré la chanteuse qui, après des réorchestrations personnelles, puis orientales, reprend les chansons de Serge Gainsbourg, accompagnée cette fois par un orchestre symphonique.
Oui, l'album vient de sortir. Il s'appelle Birkin Gainsbourg, le symphonique. Serge serait fier, il serait épaté, m'a confié Jane Birkin. Voilà pourquoi.
Serge, souvent, voulait nous donner le mieux à moi, à Bambou, à Charlotte, à Bardot. Et il a utilisé des musiques classiques. Chopin. Cheveux. Chatin. Jane B. Grieg. Lost Song. Dans la jungle de nos amours éperdus. Notre émotion s'est perdue. Brahms. Babe London, Babylon, noyé sous les flots des sunlight. Moi j'avais peur qu'on dit à la philharmonique de se baisser tous un peu pour me laisser passer. Tu vois, avec une voix pas très forte dont tout le monde disait « Oh, elle chante pas très fort ». Mais en fait, je suis un instrument, un petit peu comme si c'était un violoncelle, un petit peu comme si c'était un violin ou une pipe de pan ou la harpe. Donc on peut garder le magnifique d'un grandiose orchestre et puis me laisser passer avec les mots. Parce que les mots de Serge sont vraiment mis en valeur aussi.
Les mots de Serge et la grande réussite des arrangements de cet album, on les doit à un pianiste japonais, Nobuyuki Nakajima. Il donne une dimension mystérieuse et grand écran au titre signé Gainsbourg. Dans ce Babylon in Babylon, il y a du Hitchcock, on l'entend. Dans cette chanson de Prévert en boléro, on peut penser à Morricone.
Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence. Passe l'automne.
Voilà, Jane B parvient encore à nous faire voyager entre romantisme et audace avec des chansons qui pourtant ne la quittent plus depuis 25 ans. Une surprise dans le disque, Birkin essaye le pull marine de Jane.
Viens vite au fond de la piscine, repêcher ta petite sardine, l'empêcher de se noyer, au fond de toi la garder, petite sœur traqueuse de l'air de ton air amoureux. De la piscine, la 2D magazine.
Les 21 titres de cet album symphonique, Anthony, ont tous un point commun. En fait, la douleur sentimentale de Serge Gainsbourg.
Et oui, amour défunte, les dessous chics, fuir le bonheur. Jane Birkin explique pourquoi elle a choisi ces morceaux.
Ben, il se trouve que ce sont mes préférés et ce sont ceux qui étaient écrits après mon départ. Donc c'est vrai qu'ils le sont. Mais aussi, ce sont ceux qui ont exprimé le mieux ces sentiments que tout le monde connaît. Comme des talons aiguilles transperceront les cœurs des filles. Enfin, c'est exquis. Les dessous chics, ce n'est rien dévoilé du tout. C'est dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Les dessous chics, c'est une chandelle qui claque dans la tête comme une paire de claques. Il y a peu de chansons super heureux, tapant sur les fesses, content.
Votre cœur a toujours penché du côté de la mélancolie?
Oui, moi j'ai une tendance d'aimer Gustav Mahler, j'ai une tendance d'aimer même d'Elvis Presley, hein. Are You Lonesome Tonight? Ça c'était quand j'étais déjà très très jeune. J'avais une nostalgie sur l'enfance, sur mon frère, ma sœur, de comment le Lumière semblait plus exquis, comme un vieux film en Super 8.
Est-ce que vous diriez que Serge a eu le meilleur de vous?
C'est possible. En tout cas, il finirait par l'avoir. Rien que par la longue durée de l'affaire. Tu as eu plus qu'un autre le meilleur.
Chanter vous fait du bien.
Ça, c'est sûr, oui.
Plus que jamais?
Oui, probablement. Enfin, je suis consciente de ça maintenant, alors que peut-être avant, je n'étais pas consciente. J'ai trouvé une façon de pouvoir ressortir de chez moi, d'être avec les gens, de pouvoir les toucher encore, de les surprendre un peu aussi. Ça fait beaucoup de bien.
Mais ça participe à la guérison aussi, de chanter?
Peut-être. Sans vouloir être forcément guérie de quoi que ça soit. Ça fait partie de soi. Je t'aimais, je crains.
c'est surprenant. C'est amusant.
Il y a beaucoup de surprises et de belles surprises dans cet album. Birkin Gainsbourg, le symphonique, ça vient donc de sortir. Jane Birkin accompagnée dans le disque par l'orchestre symphonique de la radio polonaise. Concert prévu les 11 et 12 avril à Paris et le 11 mai à Monaco. D'autres dates à venir dans les festivals d'été.
Et nous sommes tous frappés par la qualité de sa voix dans ses enregistrements.
Et la prise de son avec un orchestre. Très beau. C'est magique cet album.
Beaucoup, Anthony. Alors, l'actrice de la semaine s'appelle pour nous Juliette Binoche. Bonjour Stéphane Boutsen.
Bonjour à tous.
La comédienne française sera mercredi à l'affiche de deux films.
Telle mère, telle fille, comédie française réalisée par Noémie Saglio qui avait signé Connasse, princesse des cœurs en 2015, mais aussi Ghost in the Shell, super production américaine de science-fiction avec Scarlett Johansson. Deux films, deux registres totalement différents pour Binoche.
Ghost in the Shell, c'était une plongée dans un univers que je connais pas très bien, qui est la science-fiction, dans un vocabulaire que je connais pas du tout, parce que la première fois quand j'ai lu le scénario, j'ai rien compris, parce que c'est vraiment une espèce de mélange de mots scientifico, politico, enfin tout est entremêlé. Je connaissais pas du tout ni la BD ni le dessin animé, donc je suis rentrée vraiment dans un univers difficile à comprendre. On travaille parfois avec des choses imaginaires, parce que la post-production, après, de travailler sur le corps, tout ça, c'est pas encore là, donc ça va être il faut avoir de l'imagination et puis y croire à la fois. Et la Telle mère, telle fille, qui est donc la comédie française que j'ai fait juste après le film science-fiction, c'est vraiment un film familial où j'étais heureuse de faire connaissance avec Camille Cotin, qui est pas forcément une actrice avec laquelle j'aurais travaillé normalement, on va dire. Et je trouvais que le fait qu'elle me propose, Noémie Saglio, la réalisatrice, ce film-là, je trouvais ça tellement incongru et le contraste des deux mondes m'amusait. Voilà.
Alors, on reparlera mercredi de Ghost in the Shell avec l'interview de Scarlett Johansson. Mm-hmm. On se consacre donc ce matin à Telle mère, telle fille.
Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit. Parce que sur l'affiche, que je vois donc tous les jours sur les culs de bus, voilà, Juliette Binoche et Camille Cotin, dos à dos, ont l'air, comment dirais-je, très très enceintes.
C'est toute l'histoire du film. Avril, Camille Cotin est une jeune femme à la vie réglée au cordeau. Elle héberge Mado, Juliette Binoche, sa maman, ado attardé, bohème. Or, toutes les deux vont attendre en effet un bébé en même temps. Logiquement et doublement heureux, sauf que les rigidités de l'une ajoutées au bordélisme de l'autre vont faire remonter à la surface leur ressentiment. Dialogue acéré, personnage plutôt attachant, il y a quelques lourdeurs. Telle mère, telle fille est un moment sympathique qui permet aussi de retrouver Juliette Binoche au rayon comédie.
Moi, j'ai été très heureuse et j'avais envie de cette aventure-là parce que c'est incongru, parce que ça me sort de mes zones confortables. Il faut savoir se faire peur, il faut se pousser à des choses nouvelles. Je trouve que, en tant qu'acteur, on n'a que ça à expérimenter, quoi, des mondes nouveaux et des choses qui vous poussent dans vos retranchements. Moi, c'est vrai que par moment, je dis bon, faut que je retourne en cours de théâtre, quoi, parce que j'avais l'impression d'être par moment d'être nulle, de pas forcément y arriver. Mais je crois que entre ce qu'on ressent nous acteurs et ce qui est à l'extérieur, c'est pas toujours conforme. C'est ça qui est étonnant d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un metteur en scène et d'un monteur qui va voir les moments qui sont plus étonnants que ce qu'on imagine nous acteurs.
Elle a raison.
Oui, absolument. Je vous l'ai dit, Mado, le personnage de Juliette Binoche, est une femme qui a passé la quarantaine, mais qui a toujours 15 ans dans sa tête. Je lui ai donc demandé si elle s'était inspirée de Anna, sa fille adolescente.
Pour moi, c'était un grand clin d'œil à ma fille, même si je la trouve facile. Elle a 17 ans maintenant. Peut-être avant, c'était peut-être moins évident par moment, mais c'est vrai que j'avais hâte de voir le film avec elle. Et ça l'a bien fait marrer d'ailleurs, parce que il y a des choses qui sont faites aussi pour rire, donc ça a bien marché pour elle. Mado, c'est une rebelle en fait. Je crois qu'elle s'est sentie volée de son temps de jeune adulte et qu'elle prend une sorte de petite revanche parce qu'elle est blessée profondément du fait de pas avoir accompli vraiment une carrière de danseuse et de pas vraiment s'être accomplie. Donc elle traîne la patte et cette relation avec cette fille est très possessive, et c'est un amour possessif, mais à la fois un amour qui perdure pour toujours, parce que quand elles sont séparées, elles n'arrivent pas à vivre sans elles.
Alors on a refait les comptes ensemble, Stéphane. Ouais. Juliette Binoche aura donc été à l'affiche de 5 films cette année.
D'où ma dernière question, envie d'une pause peut-être ?
Moi, je suis jamais contre des vacances, mais ce qu'il y a, c'est que j'arrive jamais à en trouver. C'est ça. C'est que j'ai le oui facile, parce que c'est agréable de dire oui, parce qu'on a envie aussi d'aller dans des différentes possibilités. Chaque année, je me dis, non, mais alors là, cette année, il faut vraiment que je trouve au moins 3-4 semaines de répit. Et c'est difficile, c'est vrai. avec aussi il y a ses enfants, il y a les parents, il y a... c'est pas toujours évident.
Donc, en attendant ces hypothétiques vacances, Juliette Binoche à l'affiche de Telle mère, telle fille, mercredi au cinéma avec aussi Lambert Wilson ou Camille Cotin, et puis Ghost in the Shell dont on reparlera mercredi.
Et vous savez quoi, Mademoiselle Cotin sera l'invitée de Stéphane Bern, l'une des invitées de Stéphane Bern, mais bien entendu à 11h dans À la bonne heure. Voilà. Allez, à tout de suite. Avec Monique Younes, bien entendu.
Et la bande dessinée RTL, oh, du moins.
Why not? Monique Younes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une fois de plus très fière de nous présenter la bande dessinée RTL de mars, et elle a pour titre La Terre des Fils, et son auteur est une star en Italie. Il s'appelle J.P.
Oui, J.P. de son vrai nom, Gian Alfonso Pacinotti. Il est le sosie de Lucky Luke. Il a aujourd'hui 53 ans, il habite en Italie, et nous l'avons découvert en France il y a juste 10 ans au Festival de la bande dessinée d'Angoulême, où ses notes pour une histoire de guerre avaient décroché le prix du meilleur album 2006. Alors, quelques trois albums autobiographiques plus tard, J.P. nous revient aujourd'hui avec une fiction, La Terre des Fils, éditée par Futuropolis.
Qu'a-t-elle de particulier, cette Terre des Fils ?
C'est une terre où tout a disparu. C'est presque la fin du monde. L'eau est empoisonnée, l'air saturé de mouches, la terre aride, et les très rares rescapés ne sont pas en meilleur état. Et pourtant, dans ce décor apocalyptique, un père va élever ses fils. Alors comment peut-il les préparer à un tel avenir ? Comment peut-il les protéger des dangers qui sont grands ? Comment les rendre forts, car il ne sera pas là toujours pour les protéger ?
C'est évidemment une question que se posent tous les pères aujourd'hui. Comment ce père-là y répond-il ?
Il les élève à la dure. Enfin, c'est ce qu'il croit. Pas de mots doux, pas de gestes tendres. Il ne leur apprend ni à lire ni à l'écrire. Il les bastonne quand ils ne font pas ce qu'il leur demande, comme vider les boyaux du chien après l'avoir tué pour faire des saucissons. Nous sommes comme chez des êtres primitifs, a décidé J.P. que j'ai joint à Rome.
Le père, il veut seulement que ses fils ils sont parfaits pour la société qu'ils vont habiter. Et lui, il s'est dit, il faut que le fils il soit beaucoup plus dur que lui, beaucoup plus fort. Différent de lui, parce que lui pense que l'amour va rendre ses fils plus faibles.
Alors, j'ai l'impression que ce n'est pas un album très joyeux, si je comprends bien.
Alors non, La Terre des Fils n'est pas joyeux, mais c'est un album passionnant, parce que sans concession. Et il y a de l'amour, contrairement à ce que l'on peut croire. Seulement, cet amour est caché. C'est le jardin secret du père qui écrit sur un cahier tout ce qu'il ne peut pas dire à ses fils, et que ses fils ne pourront jamais connaître, puisqu'ils ne savent pas lire. Ce cahier est au centre de l'intrigue de cette bande dessinée, parce que quand le père meurt, les fils n'ont de cesse, évidemment, que de trouver quelqu'un qui sait lire et leur dira ce que leur père a écrit. Alors commence leur voyage initiatique à travers cette terre désolée et dangereuse que J.P. dessine forcément en noir et blanc.
La technique a été vraiment très dure à faire. C'est une histoire presque primitive. Et moi, je voulais une technique de dessin qui était primitive aussi, qui n'avait pas de niveau que je pouvais enlever. Tu sais, si je mets les couleurs, après tu peux enlever les couleurs et l'histoire, ça existe encore. Ici, dans le blanc et noir comme ça, tu n'as aucun niveau en plus que tu peux enlever.
Voilà, et la violence qui se dégage de cet album est parfois difficilement soutenable. Ce n'est pas forcément le signe qu'on est en présence d'une grande œuvre, mais là, c'est le cas, tout simplement parce que J.P. est un très très grand dessinateur. Et la violence qu'il décrit est psychologique, morale, jamais esthétique, encore moins complaisante. Elle est inhérente au drame de ses enfants perdus et constitutive de ce monde qui touche à sa fin. J.P. ne cherche pas à inspirer une compassion facile. Il raconte et tout paraît absolument réel. Ce n'est pas une œuvre facile et c'est pourquoi je suis particulièrement heureuse que La Terre des Fils, éditée par Futuropolis, soit la bande dessinée RTL de mars.
Merci.
Laissez-vous tenter, c'est vraiment poignant.
Il est beau.
Bon, il est beau.
J.P., il est merveilleux.
Ah, il est beau, le J.P.
Et ce qu'il fait est encore plus beau.
Bien, bah, écoutez, voilà. Dans quelques instants, nous retrouvons Bernard Lehut qui va vous distribuer des livres. En l'occurrence, le dernier de notre camarade Guillaume Musso, publié chez Ixo, Un appartement à Paris.
RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi.
C'est évidemment l'événement d'édition de cette semaine, le dernier Guillaume Musso qui vient de paraître chez Ixo. Son titre, Un appartement à Paris, et la question qui vous permettait de gagner l'ouvrage est la suivante. L'un des personnages du roman est un artiste de génie. S'agit-il d'un cinéaste ou d'un peintre, Bernard Lehut ?
Eh bien, il s'agit d'un peintre et le livre sera en vente jeudi.
Le livre est en vente à partir de jeudi, mais vous l'avez gagné en exclusivité dès aujourd'hui sur l'antenne d'RTL. Merci à toute l'équipe, tout cela a été très riche.